Un vin, c'est quelque chose qui doit vous toucher au plexus, pas dans les neurones.
Un très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation.
Plusieurs font du vin pour gagner des ronds, hein. Moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue.
Aujourd'hui, la biodynamie est une recette, un drapeau. En fait, c'est une démarche.
Média Vino Pro, le podcast vin qui va plus loin. Une tête chercheuse, un électron libre. Ainsi pourrait-on décrire Julien Castel, vigneron du domaine Castel-Rainoir qui, à travers ses engagements sans concession, bouscule un peu l'image aristocratique des domaines de Bandol. Julien Castel, domaine Castel-Rainoir, le trublion des terroirs de Bandol. Julien ?
Oui.
Je suis Fabrice Mediavino. Je vous rejoins par en bas. Enchanté.
Enchanté.
Je viens vous déranger, vous étiez en plein travail ?
Oui, bah c'est un peu, on démarre la période de la taille. C'est un peu tard pour certains, mais moi je taille sur février-mars.
Vous n'avez pas commencé quasiment ?
Non, pour ainsi dire, pas du tout. Non.
Donc il y a une lourde tâche qui vous attend du coup ?
Oui, là on est sur 2 mois qui vont être intenses, sachant que, comme je dis toujours, à partir du moment où le mois de mars est passé, on est au vendange.
Vous êtes très prévoyant.
Non, mais c'est que je sais, par expérience, de vouloir faire plein de choses, qu'à partir du moment où le printemps a démarré, c'est fini. On n'a plus le temps de rien faire, donc j'ai pas mal d'années où j'ai perdu du temps et de la récolte en voulant trop en faire. Donc là, c'est l'automne-hiver sur lequel on prépare un petit peu les travaux, parce que je fais pas mal de recherches. Là, c'est taille jusqu'à fin mars, début avril. Mais à partir du moment où on a fini ça et que ça s'est démarré, c'est fini, quoi. Donc c'est la dernière période pour préparer la saison 2024.
En arrivant chez vous, on a une impression qui n'est pas commune, je trouve, sur beaucoup de domaines de Bandol. On est sur un environnement qui est singulier. Vous pouvez peut-être nous le présenter, cet environnement, d'ailleurs.
Oui, en effet. On n'est pas sur le concept des rangs de vignes qui sont à la file en palissage où tout est droit, il n'y a pas une herbe qui dépasse. Moi, c'est plutôt l'opposé que je recherche, et encore on n'y est pas encore assez. Quand on arrive au domaine, c'est vrai qu'on a un petit système pergola léger que j'ai installé.
C'est nouveau ?
Je l'ai installé il y a 3 ans, tout simplement parce que j'ai arrêté de travailler les sols depuis 2016. Là on est sur une parcelle, quand on arrive sur le domaine on a un peu plus de vigueur, donc l'idée c'est sortir la vigne du sol pour pas qu'elle soit en contact avec l'herbe, avec les risques de mildiou, mais aussi parce que c'est une parcelle sur laquelle on a plus de vigueur, historiquement c'était des arbres fruitiers, sur laquelle je vais développer tout ce qui est maraîchage au milieu des cultures, donc les tomates par exemple vont pousser dans la vigne.
Donc, ce que vous mettez sur le petit panonceau en arrivant chez vous, ouais, que vous recherchez le vivant, etc, etc, c'est pas cosmétique, ça se traduit dans les faits.
C'est pas assez par rapport à ce que je voudrais faire parce que je suis seul à tout faire. Là par exemple sur la petite parcelle, sur le domaine, j'accueille un maraîcher à qui je prête la terre, c'est un ancien chef. Il s'installe ici, on développe ça au milieu des vignes, mais je cherche encore d'autres maraîchers, je cherche des éleveurs, des arboriculteurs. L'idée pour moi, c'est revenir à ce qu'est la nature, donc c'est pour ça que je parle d'agro-écosystème. C'est par la main de l'homme, agro. L'idée, c'est de développer un système autonome, tel un écosystème, avec des interconnexions entre les plantes, l'environnement, le terroir, pour être le plus autonome possible, mais diversifié aussi.
Alors avant que vous nous développiez peut-être un petit peu plus largement tout ce que vous avez mis en place, quelle est l'histoire de votre domaine ? Quelle est votre histoire peut-être aussi ?
Le domaine, c'est historiquement ce qu'on appelle la campagne Rainoir. Donc la famille Rainoir sont ceux qui ont construit la propriété.
D'où le nom du domaine Castel-Rainoir.
Voilà, mon père a décidé de garder les deux noms, ce qui est une belle chose. On en a hérité dans les années 50. Jusque-là, c'était cave coopérative principalement. Il y avait la cave de 1892, donc ils produisaient un petit peu, mais c'était du bricolage. Il y avait quelques clients, et puis pour eux, hein, évidemment. Et mon père, lui, à partir de 88, lui, il travaille au domaine de la Franvérole, qui est sur Bandol, plus historique. À partir de 88, il a décidé de mettre en bouteille pour pouvoir commercialiser, développer le domaine. Mais c'était un second vin. Il n'a jamais vraiment développé le domaine en tant que tel, en travaillant avec les mêmes techniques, alors qu'on n'avait pas forcément les mêmes problématiques. Je suis né ici, donc j'ai grandi ici, j'ai toujours été la main dehors, j'ai toujours eu besoin d'être dehors même, parce que j'ai besoin de bouffer de l'énergie, moi. Ça s'est construit assez naturellement de revenir à la vigne. Depuis l'âge de 10 ans, j'ai fait mes premières vendanges. Après les études, à partir de 2010, premier millésime, c'est mon premier millésime total, je me suis installé fin de décembre 2009.
En faisant des études auparavant, en allant chez des amis vignerons de votre père, en bourlinguant un petit peu ?
Alors, je regrette un petit peu que justement mon père n'ait pas pu bourlinguer comme moi j'ai pu le faire. J'ai pas eu la chance d'avoir cette partie-là, comme je peux le connaître chez d'autres potes vignerons, où il y avait les parents, une certaine notoriété, où ils vous rencontraient beaucoup de monde, pouvant faire des stages dans des endroits assez hallucinants en termes de maîtrise et de connaissances. Donc, je me suis pas mal construit seul. Je suis pas très littéraire, pas très école, donc j'ai fait bac agro. J'ai de suite eu le feeling, c'est pour ça que j'ai continué là-dessus. BTS viticulture œnologie, bon, les cours pour moi, comme j'avais dit à mon prof de chimie, moi je les bois, le molécule, je les travaille pas. Donc c'est un assez bon résumé de ma capacité à travailler à l'école. Une petite licence, quelques stages, pas fou. Je suis parti 6 mois aux États-Unis pour l'anglais principalement. Ça a été une très belle expérience, et notamment en termes de niveau d'exigence qu'ils peuvent mettre. Bon, sans parler des moyens par contre, qui sont énormes. Donc ça, c'est 2008. Ben, en fait, j'avais envie de faire mon propre vin. J'avais mon idée en tête de ce que je voulais faire. Donc nature, vin raffiné, équilibré, j'avais mon idée. Je suis fan de Pinot, de Savagnin, de Chenin, ou de Chenin, ça dépend qui. J'aime le vin. J'aime les bonnes choses et j'avais mon idée en tête. Donc je suis revenu sans avoir fait beaucoup de beaux stages, en ayant toujours travaillé à la vigne, donc je sais exactement comment ça fonctionne. Ça, il n'y avait pas d'inquiétude. Et sans non plus avoir fait des études de fou, j'avais le feeling. Et c'est là où après je me suis construit au fur et à mesure à la terre. Donc tout ce que j'ai pu mettre en place, c'est ma propre réflexion. C'est pas des formations, c'est pas de la lecture, c'est la logique de la nature et c'est la meilleure école.
D'où vous vient ce regard sur le vivant, sur l'approche naturelle, sur le Pinot, sur le Chenin? On est assez loin de tout ça, Bandol.
On est loin, mais pas tant, parce que si vous prenez les bons vignerons de l'appellation, ou les bons techniciens de l'appellation, c'est des gens qui aiment le vin. Et vous irez dans toutes les régions, ceux qui aiment le vin, en règle générale, sont ceux qui vont faire bon, parce qu'ils auront un avis éclectique sur le produit, et parce qu'ils vont avoir aussi le plaisir de vouloir se confronter au beau vin. Et on a la motivation, c'est la motivation un petit peu occidentale, de vouloir être toujours un petit peu meilleur, ou de dépasser nos maîtres. Je suis né ici.
Est-ce que vous pouvez nous parler du lieu d'ailleurs ici, là, parce que vous nous présentez un petit peu ce lieu-là.
Oui,
c'est la première fois que je visite votre domaine. Il est singulier même dans Bandol.
C'est vrai que quand on arrive ici, bon, on a la vieille bâtisse qui est 1855. Bon, malheureusement, on est au bord de l'autoroute, donc c'est le plus gros problème quand on aime la nature. Par contre, c'est sûr que quand on arrive, on reste sur des rangs de vignes. Là, on est sur des Carignans, mais juste à côté, on a les Mourvèdres. On reste sur des rangs de vignes qui à l'époque étaient travaillés au tracteur. Mais c'est vrai que quand on arrive, moi, j'ai laissé la nature prendre ses droits. Donc sur les bords de rivière, on laisse la végétation, même si on va la travailler, parce qu'il faut quand même travailler, maîtriser, parce que sinon la nature se déploie dans tous les sens.
Moi, je pensais que c'était des bambous, c'est pas des bambous ce qu'on
c'est
voit.
C'est des cannes de Provence. Mais je développe la bambouserie. Après, j'ai un bois, on a pas mal de clôtures végétalisées, donc on végétalise énormément. Et je laisse vraiment la nature faire et moi je sélectionne. Parce que chaque arbre qui va pousser naturellement, sans eau d'ailleurs, va pousser bien mieux et bien plus vigoureusement que n'importe quel arbre qu'on va pouvoir planter. Et la vigne inclue, je suis pour la sélection naturelle. Parce que cette sélection naturelle, c'est elle qui va nous guider. Alors que l'agriculture, on est toujours sous perfusion. L'objectif, c'est que le moindre truc que l'on va planter, il faut qu'il pousse quoi qu'il en coûte. Produits, eau, engrais, tout ce que l'on veut. Et c'est ça qui détruit nos sols, c'est ça qui détruit notre agriculture et qui détruit aussi la rentabilité de notre agriculture. Donc c'est cette idée-là de voir un petit peu la nature reprendre ses droits, ce plaisir-là, parce que j'aime ça, j'aime la nature. Ici, on est réserve aussi pour la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux. Je travaille beaucoup avec les parcs naturels. J'ai changé énormément dans des groupes de travail autour de l'environnement, du recyclage, de plein de choses. Je suis citoyen de ce monde, donc je ne comprends pas que l'on ne puisse pas avoir les choses de cette manière. C'est l'inverse, c'est pas logique pour moi. On est sur une terre, on la partage tous. Pour moi, on se doit de créer quelque chose de positif pour demain, d'agrader, ce qui n'existe pas dans le dictionnaire, mais en agronomie, l'agradation des sols, l'agradation de la biodiversité, donc créer, plutôt que de dégrader. Pour moi, la dégradation, cet impact-là, détruire l'avenir de des générations de demain, je ne le conçois pas, je ne le comprends pas.
Quand on est ici, on a un grand sentiment de liberté. Est-ce que c'est quelque chose qui vous va comme définition, ou c'est comme ça que vous appréhendez votre vignoble en fait?
Alors on est en hiver, mais j'ai un client qui est arrivé une fois en plein été, il m'a dit putain ça pue la nature ici, désolé pour les mots. Et c'est vraiment l'idée que je veux qu'on le ressente. Un environnement plus naturel, c'est un environnement dans lequel on respire. Mais d'un autre côté, on n'a pas ce côté 2D du jardin à la française, où tout est droit, cadré, on sait où on va. L'idée, c'est d'avoir chaque pas, chaque bosquet qu'on va passer, de découvrir quelque chose de nouveau, d'observer la nature, les papillons en plein été, les oiseaux. Là, tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, je regardais un faucon cresserelle parce que j'aime ça, j'aime les voir faire. J'ai créé un bassin d'eau qui n'existait pas pour la vie, pour la biodiversité, pour les abeilles, parce que j'accueille aussi un apiculteur. Oui, en effet, c'est un environnement où tout n'est pas rectiligne. Mais je ne veux pas que ce soit rectiligne. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, pour le chemin qui passe au domaine, il soit complètement entouré d'arbres et de végétation. Qu'on arrive justement dans un monde différent de ce que l'on peut connaître, mais un monde...
C'est déjà le cas pour moi.
Oui, bah pour moi, j'en veux toujours plus. Mais c'est vraiment ce côté où, en fait, on rentre dans une bulle. On sort de ce monde qui va à toute vitesse, fou.
Donc aujourd'hui, Castelrainoir, c'est quelle surface ?
C'est 8 hectares, j'en ai 6 de plantés. Et concrètement, en production, j'en exploite 4,5. Pourquoi ? Parce que je suis seul, faute de moyens, l'idée c'était de se concentrer sur ce qui est productif pour le développer, faire évoluer le vignoble comme je l'entendais, donc passer du travail du sol au non-travail du sol. Là, j'ai développé des pergolas avec des pieds qui montent à 1 mètre, 1,20
m. Elles sont juste à côté, là, on peut les voir. Nous sommes en plein mois de janvier, mais on sent que ça vit ici, hein. C'est pas mort du tout. Hein.
Non, là les sols sont en repos. D'ailleurs, si on s'avance encore un peu, vous allez voir les sangliers qui se sont bien amusés. Et chez moi, le sanglier par exemple, ça c'est un très bon indicateur aussi de la différence de manière de voir les choses. Dans le sud, on entendra toujours les sangliers, c'est un ravageur. Il va nous bouffer les raisins, il détruit tout. C'est vrai dans des contextes standards d'agriculture. Donc c'est-à-dire où on a plus de vie dans les sols, on clôture. On n'a plus que de la vigne qu'on va même parfois irriguer. Et en plus, l'environnement aujourd'hui qui est beaucoup résineux dans la végétation, les sols sont morts. Le sanglier va se nourrir en retournant les sols, en mangeant des racines, des vers et ainsi de suite. Moi ici, le fait de libérer les sols, d'avoir de la vie dans les sangliers me les retournent, ce qui est un enfer dans le travail parce que moi je travaille tout au quad et plus au tracteur, je me fais secouer. Par contre, ils ne me mangent pas les raisins. Les cochons n'aiment pas le raisin, c'est sucré, c'est trop sucré. En plus, le raisin, c'est le fruit le plus sucré. Donc, c'est pas ce qu'il va chercher. Ce qu'il va chercher, c'est pour boire. Moi ici, en plein été, ils viennent, je les laisse faire. Bon, hormis dans la zone maraîchère, on est obligé de les contraindre un peu.
Mais là, je vois que c'est un petit peu clôturé quand même.
Voilà, ça c'est pour le maraîchage et pas pour la vigne. L'idée c'est de laisser toujours au minimum 10% de surface disponible aux vivants, à la flore, à la faune. Parce que je prends toujours comme exemple pour un peu titiller mes confrères, dire les animaux ne connaissent pas le cadastre. Si on veut se battre contre la nature, on perdra toujours parce qu'on va y perdre en énergie. Comme toute guerre, de toute façon, on y perd. Je préfère travailler avec, adapter, faire évoluer ma manière de travailler, de voir les choses et laisser de la place aux animaux. Et par contre, leur donner à manger, qu'ils aient des endroits pour pouvoir vivre en dehors de mes cultures et qu'on puisse cultiver. Il y aura toujours de temps en temps quelques agressions, mais beaucoup moins en réalité. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On dort mieux de suite. Hein.
Donc là, toute la partie qui est autour de la bâtisse historique, c'est une grande surface. On est où d'ailleurs sur Bandol pour nous présenter un petit peu plus directement les lieux ?
Dans le bas-fond de l'amphithéâtre. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la région de Bandol, il y a une caractéristique quand on va rentrer, on va passer sur l'autoroute, on va passer entre le village de l'Acadière et le village du Castelet. Et là, on va rentrer dans un amphithéâtre qui est un peu un des berceaux de l'appellation. Donc moi, je suis vraiment au milieu, au pied côté sud de la Cadière d'Azur. Là où on est, j'ai 1 hectare de bandole et 6000 m² de vin de pays. J'ai une parcelle un petit peu à côté qui fait 1 hectare aussi, mais donc sur les 8 hectares, ça veut dire que j'ai pas tout à côté. Bon, mon père, par exemple, au domaine La Franvérole, ils ont 10 hectares d'un bloc sur les 12. C'est très rare, la majorité des domaines ont un vignoble éclaté. De par les restructurations et ainsi de suite. Mais ce qui était un problème est devenu intéressant. Pourquoi ? Parce que j'ai une parcelle exposée à la mer. Le vigneron qu'il avait avant, des herbages chimiques, évidemment, il a fallu tout changer. Pour lui, elle était précoce, pour moi, elle est devenue tardive. Parce que j'ai l'influence de la mer. Donc ça a totalement fait évoluer le vignoble. J'en ai une autre où il y a beaucoup plus d'imprégnation végétale, donc beaucoup d'arbres, donc de plus en plus de fraîcheur. Donc on la travaille très différemment aussi. Moi, les parcelles, il faut savoir aujourd'hui que je les rends autonomes pour ne faire zéro traitement. C'est pas des traitements, c'est de la phytothérapie à base de plantes, mais par exemple les années précédentes, en fait c'est pas des traitements, c'est plus pour supporter les chaleurs d'été qui sont assez importantes, donc avec de l'argile, certaines plantes pour pouvoir supporter un petit peu les grosses chaleurs.
Là on est à côté de, alors c'est la vigne à droite, mais juste à gauche on a des arbres et on a quelques extrêmement animaux.
Plutôt que d'acheter le fumier, le compost idéal à l'autre bout de la France, il faut savoir un peu recycler. Donc l'idée c'est de, là c'est du fumier de cheval, ce qui est pas idéal, hein, le fumier de cheval n'a pas grand chose au niveau nutriments, mais on en a à côté, donc l'idée de pouvoir recycler, de mettre ça. Et là on est à un endroit un petit peu historique aussi à côté, puisque c'est un ancien puits qui marchait à éolienne, donc c'est la maison ici dès 1855 qui était autonome en eau. Donc c'est vrai qu'on a, j'ai quand même la chance d'être dans un environnement pour la diversification de la production avec le maraîchage et tout, où on a quand même de l'eau. Bon, c'est pas parce qu'on en a qu'il faut la gaspiller, donc on fait quand même très attention. Donc c'est pour ça que là on va avoir du fumier, mais après je vais tout couvrir avec des broyats, donc on va essayer de recycler avec des broyats de végétaux, avec tous les élagueurs qui vont travailler dans le coin, voire même la déchetterie, j'essaie d'y travailler avec eux pour trouver un module à mettre en place. Donc l'idée c'est vraiment travailler en local
et en autonomie.
En autonomie géographique, et après moi évidemment le rêve ultime c'est être le plus autonome possible, d'être capable de faire évoluer notre manière de travailler pour produire de tout. Et en fait je parle beaucoup de colonisation du vignoble par le fruit ou le légume.
Et ben on va continuer notre petit périple. Ah, là on arrive sur des vignes. Elles sont recouvertes ?
Donc là, on est sur la partie que j'appelle le Clos Castel, donc c'est mon haut de gamme. C'est la parcelle qui est au nord de la maison, donc classée bandole. La petite première partie, on est sur des cinceaux. Donc vous voyez, il y a des structures en bambou que je commence à monter. L'idée, en gros, c'est créer une palissade avec des bambous. Pourquoi ? Le cinceau, c'est un cépage à port retombant. Et c'est un cépage qui est acrotone, donc c'est-à-dire que sa vigueur, elle est sur le bourgeon le plus à l'extrémité du pied. À bandole, on a l'obligation de travailler en taille courte. Le problème du cinceau, c'est qu'il n'aime pas la taille courte. Moi, l'idée, c'est m'adapter en permanence. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est l'idée, c'est on taille, on récolte. Donc pour cela, il faut se remettre en question soi-même et pas être dans l'obligation de respecter un cahier des charges avec toutes les contraintes. Où aujourd'hui, au final, les cahiers des charges sont plus faits pour les gros que les petits. Donc si c'est pour mourir, autant faire autre chose. J'ai vraiment développé un autre système et le cinceau, en le travaillant en acrotonie, donc en lui donnant l'opportunité de croître verticalement sur une structure tout seul, il explose en vigueur. Mais il explose, hein. C'est du x10 sur certains pieds à du x3, x4 en très peu de temps.
Donc, c'est pas un problème ça, cette vigueur ?
Non, parce que c'est déjà des endroits où ça produisait peu, donc il aurait fallu les mettre sous perfusion, donc gros travail du sol, amendement, palissage, gros palissage. Je préfère les faire monter sur des structures et je préfère avoir plein de grappes, mais petites. Et quand on veut faire des vins harmonieux de qualité, quand vous prenez une grosse grappe de raisin, bon, grosse grappe raisin de, pas forcément raisin de table, hein, plus, mais à essayer, mais plus raisin de cuve, bah, goûtez le raisin qui est le plus proche du pédoncule, donc du sarment, et le raisin qui est le plus éloigné sur une grosse grappe, et vous verrez une grande différence de maturité. On va avoir un raisin qui va être très mûr près du pédoncule, et parfois qui va avoir un goût vert à l'extrémité. Ça veut dire quoi ? Des vins dissociés, potentiellement au niveau aromatique. Donc l'idée, moi je préfère avoir plein de petites grappes harmonieuses, adaptées à la vigueur de la plante. Bon, on va pas chercher une survigueur par de l'engrais, par de la perfusion, hein. C'est vraiment adapté à la plante, mais par contre harmonieux et qualitatif.
Alors ça vaut pour le cinceau, peut-être pas pour le Mourvèdre.
Alors le Mourvèdre, lui à l'inverse, c'est un cépage qui aime la taille courte parce que les bourgeons les plus productifs sont ceux qui sont à la base de la souche. Donc là, moi, on est quand même sur un vignoble qui a une moyenne de plus de 40 ans. Hein, et quand je dis la moyenne, c'est que c'est pour 60% du vignoble 40 ans. Donc l'idée, c'est de reformer plutôt que d'arracher et replanter. On a le bourrelet de greffe qui est proche du sol en règle générale. Ben, quand on a des pampres qui vont repousser, que l'on va en règle générale enlever pendant la période de l'épamprage, je vais garder les plus jolies sur certaines souches qui sont les plus verticaux et qui vont me permettre de recréer un nouveau tronc. Pourquoi ? Pour regagner en vigueur, parce que là, il faut imaginer le flux de sève comme de la plomberie. Chaque nécrose, c'est un nouveau coude qu'on va rajouter, donc c'est une faiblesse de vigueur et c'est une mortalité à court terme de la plante. Donc c'est l'idée de rajeunir le vignoble comme ça, ce qui m'a coûté beaucoup en rendement, beaucoup, et en temps aussi. Quand on arrache une plante, et qu'on déjà c'est normalement 7 ans sans retravailler les sols, ce que personne ne fait, mais c'est la norme. Si on veut reposer les sols, les renourrir, et après c'est au moins 4 ans pour reproduire au moins une grappe.
C'est pas très rentable tout ça, dites-moi.
Je préfère prendre de la récolte sur des vignes en place et qui ont
gardé le système racinaire.
Voilà, exactement. Donc par contre, c'est vrai qu'en ayant totalement changé le système de travail au niveau donc du travail du sol, avec des faibles apports d'engrais, par contre, c'est sûr que les vignes, il y en a qui claquent, hein, qui tiennent pas. Par contre, celles qui commencent à s'adapter, ben, la vigueur augmente. Donc en fait, mes rendements avaient fortement chuté pour plein de raisons, reformation, changement de travail, arrêt du travail du sol. Petit à petit, c'est en train de reprendre le dessus, sachant que ça fait 3 ans qu'on est en moyenne à 350 mm d'eau par an, et notamment 2022, c'est 6 mois sans eau. On est dans l'obligation de se réadapter.
Je me permets de vous couper, mais juste à côté, je vois une petite ruche au repos.
Mais dans l'esprit du projet agricole global, qui est la diversification, pour moi, c'est un projet qui est économique, donc c'est mon domaine familial. L'objectif, c'est de pouvoir le transmettre de manière viable à ma fille qui est née il y a peu de temps.
2 semaines, vous me disiez tout à l'heure. Hein.
Voilà. Donc,
très peu de temps.
C'était, oui, très peu de temps. Donc ça a toujours
été. Vous avez des petites cernes d'ailleurs, si je peux me permettre.
Un peu. Ça a toujours été l'idée. Quand je m'occupais du conseil d'administration de l'appellation, je m'occupais de la promotion, j'essayais toujours de jouer sur la corde sensible qui marchait pas forcément de partout. Chez les vignerons, on a des domaines qui portent nos noms, qui sont des domaines familiaux, il faut tout faire pour les transmettre. Donc préparer les générations d'après. Je préfère me mettre dans le dur et préparer les générations après pour un domaine qui soit viable économiquement. Au niveau agricole, bah, qui soit le plus autonome possible, bah, parce que c'est moins de dépenses d'argent, donc ça veut dire qu'on va gagner en rentabilité, une certaine fierté aussi de faire des bons produits. Il y a le côté aussi économique et social, donc l'objectif de l'économique et social, c'est la diversification, mais seul je ne peux pas tout faire et je ne veux pas forcément d'employés. Donc je préfère installer des néo-agriculteurs à l'extérieur à qui je vais prêter mes terres, on va cultiver au milieu des vignes, comme tout à l'heure les tomates. Bah, là il y a un apiculteur qui vient poser ses ruches de temps à autre au milieu des vignes, donc pour donner une idée, hein, ceux qui ne connaissent pas le terme de tournière, donc c'est en bout de rang l'endroit où on va tourner avec les tracteurs, ben en tournière, en bout de tournière, il y a quelques ruches qui sont posées. Donc là on les voit pas, il les a mis au froid parce qu'on a la problématique du frelon asiatique. Mais c'est cette idée aussi de s'intéresser aux autres cultures et de vraiment ramener le concept de la ferme agricole qui a toujours existé. Mais à l'époque on travaillait en famille. Donc plutôt que de travailler en famille, qui n'est plus le cas, je suis seul. Ben, l'idée, c'est en fait recréer une sorte de famille économique avec un maraîcher qui s'est installé, qui est un ancien chef, avec un autre maraîcher qui s'installe, avec un arboriculteur, avec un éleveur, où chacun va créer sa propre activité autonome. Mais par contre, on va partager la terre, je leur prête les sols, on va partager du matériel. Et aussi, je vais partager mes clients parce que j'ai quand même une bonne clientèle et qui est toujours en recherche de beaux produits. Donc, c'est l'idée de recréer quelque chose de logique, au final, juste local, autonome, donc et voilà, c'est un vrai projet agricole, économique et social.
En arrivant sur votre domaine, je voyais que vous étiez certifié en biodynamie. Ce concept de ferme, d'entité autonome, c'est dans les principes fondamentaux de la biodynamie. Est-ce que c'est lié à cette approche ou ça va plus loin?
Ce qui m'a forgé, parce que la biodynamie, c'est compliqué en ce moment.
Ça vous amène le sourire.
Ouais, un sourire narquois. Mes premières lectures en biodynamie, il y a une chose qui m'avait marqué, c'est le vivant. C'est-à-dire vraiment travailler sur le vivant, chaque plante, chaque animal.
Vous le mettez d'ailleurs aussi à l'entrée de votre domaine.
Voilà, c'est chaque pour moi, chaque vigne est un être vivant. Ce que l'on ne conçoit pas, ce n'est pas un support. Alors que dans l'agriculture, administrativement, nous sommes des exploitants agricoles. Le terme exploitant, c'est comme l'esclavage. C'est donc en fait la culture, l'animal est un esclave de l'usage humain économique. Et ça, c'est des concepts qui pour moi ne sont pas convenables. Donc c'est pour moi vraiment le vivant est essentiel. Et c'est là de mes premières lectures qui viennent en biodynamie qui résonnait totalement avec ce que j'avais en tête. Je me suis agréé petit à petit en biodynamie de par ce concept-là du vivant, de respect du vivant. Et le terme de respect du vivant, bon, le respect, c'est un terme, je pense que beaucoup ne connaissent pas la définition, mais c'est malheureux parce que c'est essentiel, le respect de chaque être, quel qu'il soit, de ne pas juger sans comprendre. Et c'est pareil pour du végétal. C'est à nous de nous adapter et pas toujours essayer d'adapter l'autre. Et ça ne marche pas, on le sait bien aujourd'hui, on comprend maintenant. Ça, c'est un peu le fondamental de mon approche vers la biodynamie, mais pas que. Aujourd'hui, la biodynamie, je vais en sortir. Je vais arrêter le label Déméter. Et je n'irai pas sur biodivin. Pourquoi? Parce que déjà, le vin, ce n'est pas l'origine même de la biodynamie. C'est,
Et pourquoi Steiner ne buvait pas?
Entre autres, mais pas forcément que Steiner, mais on est sur un produit transformé par la fermentation alcoolique. Donc, certes, ça va transmettre beaucoup de choses. Et puis, il y a autre chose qui, éthiquement en parlant, pour moi, est un vrai problème. Bon, certes, on est dans un média du vin. D'accord, le vin est essentiel à la gastronomie, je suis vigneron. Mais le vin, ce n'est pas lui qui va aider à la survie de l'humanité. Il faut manger, il faut se nourrir. Aujourd'hui, le problème du label Déméter, notamment, c'est devenu un label beaucoup trop commercial pour moi, qui a le vent en poupe aujourd'hui. Il faut rentrer de plus en plus de domaines qui ne sont absolument pas avec la philosophie pour moi. Quand on goûte les vins, bah alors je ne parle pas du reste. Après, sur les derniers contrôles, j'ai voulu faire rentrer le maraîcher dedans. Le maraîcher m'a dit oui, il faut tout repayer une certification. Moi, mes terres sont certifiées. On va cultiver sur des terres certifiées Déméter. Il faut tout repayer, sachant que le maraîchage ne gagne pas d'argent. Donc la philosophie pour moi n'y était pas. Et surtout, dans le cahier des charges, il n'impose pas une certaine quantité de biodiversité. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut quand même évoluer. Il y a trop de choses qui font que...
C'est pas suffisant pour vous.
On devrait être sur un label exigeant, comme l'étaient les AOP à une époque. À une époque, les AOP, c'était le summum de la production agricole. Aujourd'hui, les AOP, c'est devenu un cahier des charges où on essaie de faire entrer un maximum de monde. Et plutôt que d'évoluer, on régresse. Pour moi, les AOP, si on veut aller dans le bon sens, dans le monde d'aujourd'hui, dans l'attente du consommateur, interdisons le désherbage chimique. Point. Et là, on pourra parler terroir. Comment dans le monde d'aujourd'hui, on peut encore parler de terroir sans parler de diversité et en continuant à faire du désherbage chimique? Ce sont toutes des choses où on est encore dans un vieux monde, alors qu'il y a toute une des nouvelles générations qui vont mettre un coup de pied là-dedans, et ils auront raison de mettre un coup de pied là-dedans, parce que on fait que de l'économie du commerce, et après on s'étonne de pas bien vendre, de pas bien arriver à travailler.
Sur Bandol, ça va quand même.
Comme de partout, il y a une crise économique et à partir du moment où on fait des choses avec un minimum d'intelligence et de qualité, on arrive quand même à commercialiser. C'est pas le cas de tout le monde. Et il faut se diversifier surtout. Le vin, c'est bien. Le vin, il y a une certaine forme de rentabilité, sachant que dans l'agriculture, il n'y a pas de rentabilité. Mais c'est mieux évidemment que du maraîchage. Et le confort de vie entre le maraîchage et l'élevage, bon, je pense que les vignerons vont préférer la viticulture. Mais concrètement, la monoculture est une hérésie en tant que telle au niveau économique et au niveau alimentaire. Alors certes, je prêche pour ma paroisse en disant cela. Concrètement, si on est logique, nous, dans le sud, on était le pays du légume, il n'y a plus que du rosé maintenant. J'extrapole un peu, je titille volontairement. J'aime ça. Mais c'est quand même une réalité. Donc on irrigue pour faire du rosé qu'on va distiller parce qu'on n'est pas capable de le vendre. Et sous subvention, le tout. Et c'est là toute la problématique économique que l'on connaît aujourd'hui à tout niveau. Mais moi, l'objectif, c'est essayer de montrer qu'on peut faire les choses différemment. Plutôt que d'en arriver un jour à dire on arrache toutes les vignes, on détruit en gros tous les exploitants viticoles, ce qui pourrait arriver. On ne sait pas où on peut aller demain, hein, vu que le monde est un peu fou maintenant. Mais donc, moi, je préfère être déjà moi autonome, rendre certaines familles autonomes par des maraîchers, des éleveurs, mais aussi montrer qu'autre chose, un autre chemin est possible. Et un chemin où on crée du vivant. Moi ici, j'ai pas d'érosion. Là, j'avais des voisins, le ruisseau avait débordé en 2019. Moi, l'eau a été absorbée par les sols. Il y a zéro érosion. L'érosion, c'est quand même un des plus gros fléaux de l'agriculture. Les inondations que l'on connaît sont liées au fait que les sols agricoles ne sont plus poreux. Ils sont complètement asphyxiés par un travail du sol. Les grandes cultures, il n'y a pas que la vigne, hein. Il y a tout pour ça. Donc, si on veut être capable de se renourrir, il faut travailler intelligemment. Moi, j'aime le vin, je resterai vigneron. Mais je me suis bien mangé quand même. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de colonisation. On essaye de recoloniser le vignoble. Je mets des tomates de temps en temps dans les vignes sans irrigation. Il y en a qui vont prendre, elles vont se ressemer. Ben, petit à petit, on va avoir à manger. Tout à l'heure, je vous ai fait goûter la fausse roquette, la moutarde blanche qui a un goût de wasabi. C'est de la fausse roquette. Vous prenez les feuilles, ça fait de la salade. 80% des plantes qui poussent sont comestibles. Donc là, au bord, là, on est justement à côté d'un champ, bord de ruisseau, j'ai des ronces. Les ronces, on va ramasser les murs. Nous, ça va être commercialisé d'ailleurs par le maraîcher. Les cannes, je vais pouvoir les utiliser comme tuteur ou je vais les remettre au sol pour recréer l'organique. On a du noisetier, des noix, enfin, et tout ça plutôt que de tout couper propre à la machine, comme ils disent, ben moi je vais les laisser, on va retravailler, on va nettoyer les fonds de ruisseau, mais on va laisser cette biodiversité environnante qui crée des murs végétalisés contre justement le mistral qui assèche, crée aussi des abris pour la biodiversité, la flore, la faune aussi, les oiseaux en ont énormément besoin, d'où le fait d'être refuge pour la LPO, mais aussi ça crée des zones d'amas de matière organique et de fraîcheur et d'humidité.
Ce discours engagé sur Bandol, vous êtes nombreux à le tenir dans cette posture-là ?
Je suis peut-être trop engagé. Je n'engagerai personne, du coup, dans cette manière de voir.
Parce vous que vous sentez isolé ?
Chacun est maître de ses propres mots. Isolé, on n'est jamais le premier, on n'est jamais le seul. Il y a pas mal de monde qui fait des choses, tout le monde a envie de faire évoluer. On voit ça souvent chez des néo-vignerons qui vont s'installer, arrivant de l'urbain, vouloir s'installer. Dans le secteur, j'ai quand même quelques personnes intelligentes qui comprennent ce que je fais, qui vont me défendre là-dessus. Après, moi,
ça veut dire que vous êtes souvent attaqué ?
Ouais, je l'ai été. Alors maintenant, le fait que je sois un peu plus connu et que j'arrive à produire, bon, bah, évidemment, les arguments sont un peu moins là pour les autres. À des années où je produisais pas, c'est sûr que c'était compliqué. Ils avaient tous les arguments pour justifier que ça ne marchait pas. Je suis aussi conscient que moi j'ai un petit domaine, je suis seul, c'est un petit domaine familial, j'ai pas le même niveau d'endettement que d'autres parce que les terres étaient en partie propriété et surtout parce que j'ai choisi un chemin avec peu d'endettement. Pas de tracteur, pas de produits phyto, en cave très limité, donc un travail principalement manuel qui demande du temps. Et comme je suis petit, j'ai pas d'employés. Et à partir du moment où on a des employés, on a des contraintes. Réduire de système, c'est-à-dire demain vous avez 40 hectares, vous les passez à 20, enfin je veux dire, la décroissance n'existe pas dans le monde occidental. On est en permanence fait pour faire de la croissance. Donc les autres vont comprendre, mais par contre, j'ai fortement conscience aussi que pour eux, ils n'ont pas les mêmes problématiques que moi. Par contre, ils vont les comprendre. Et si demain, et c'est des gens qui font déjà évoluer énormément. Donc il y a pas mal de gens avec qui je vais échanger, avec qui on va parler, et avec qui il va avoir une bonne relation parce que déjà, ce n'est pas des gens qui ont un problème d'ego. Il n'y a pas de jalousie. C'est des gens intelligents avec qui on va travailler sur la théorie et sur la compréhension, sur les dégustations. On fait des beaux apéros aussi, évidemment.
Je vais vous reposer la question. Du coup, est-ce que vous aimeriez être un petit peu plus nombreux, objectivement, dans votre approche assez engagée plus, si je puis dire ?
Ça a beaucoup évolué. Je ne dirais sûrement pas que c'est grâce à moi, parce que ça serait extrêmement prétentieux, bien que je sois très prétentieux. Mais il y a quand même beaucoup de vignerons qui viennent à l'enherbement maintenant. Beaucoup, énormément, certains qui passent au cheval. Donc déjà, c'est un énorme plus. Ça montre que ça marche et qu'il y a un véritable intérêt. Maintenant, on est quand même toujours dans ces petites habitudes à l'ancienne du travail du sol qui est nécessaire pour faire remonter l'eau par capillarité et donner à boire à la vigne. Mais ça évolue énormément. Moi, je vais très loin. Déjà, j'ai pas de tracteur. Donc c'est plus compliqué pour beaucoup. Moi, il y a des gens qui me disent que je suis pas paysan parce que j'ai pas le cul sur le tracteur. Donc c'est ennuyeux. Mais par contre, beaucoup vont faire évoluer, vont faire de l'enherbement. Beaucoup ont fait des énormes travaux sur la recherche végétale. Le précurseur dans le coin, c'était quand même quelqu'un comme Daniel Ravier à Tempier. Donc il y a quand même beaucoup de gens qui vont travailler dans leur secteur. Moi, après, la différence aussi, c'est que c'est un domaine familial. C'est chez moi. Donc c'est moi-même qui vais le faire. Parfois, certaines personnes dont je vais parler, ce sont des techniciens, ce ne sont pas chez eux. Donc ils ne peuvent pas se permettre aussi de prendre des risques que moi je prends, parce que je prends beaucoup de risques. Après, c'est des risques engagés et réfléchis théoriquement à la base, mais c'est des risques sur la culture, parce que c'est différent, parce qu'il faut arriver à valoriser aussi. Moi, il y a eu quand même quelques années très compliquées en termes de valorisation, mais je savais où j'allais, je ne me suis pas trompé. Ça me permet, dans un contexte de crise économique tel qu'on le connaît aujourd'hui, de continuer à vivre et à vendre. Mais l'idée aussi, c'est de montrer que ça peut se faire. Donc, et s'il y a des gens qui ont envie de changer, je serai le premier à vouloir les aider, parce qu'au plus on va faire évoluer, au plus il y aura une pression globale qui va aider à changer l'agriculture.
Je vais vous reposer la question. Vous aimeriez être un petit peu plus nombreux dans cette approche ?
On aimerait toujours être plus nombreux. Le but, c'est pas de rester le seul comme ça. C'est vraiment le but, c'est l'environnemental. Donc, au plus il y aura de monde, au mieux ça sera pour notre environnement.
Depuis que vous êtes arrivé en 2009, vous avez vu une évolution, malgré tout, des cheminements personnels qui ont vu des domaines sérieusement évoluer sur cette approche que vous évoquiez à l'instant ?
La plus grosse évolution va être au niveau du travail du sol, notamment l'enherbement, peut-être par rapport à avant, pour structurer les sols, parce qu'on a des gros problèmes de structure du sol, notamment à cause de la sécheresse. On a des sols très argileux, très compliqués. Des évolutions aussi sur la plantation, sur le matériel végétal, donc greffage en place, toutes ces choses-là. De moins en moins de cuivre, même ça reste très limité. On va dire que ceux qui ont évolué sont ceux qui avaient déjà... une capacité à évoluer. Je suis peut-être trop jeune pour me permettre de juger de ça.
Vous avez quel âge ?
J'ai 39 ans. Mais bon, il y en a qui sont un peu plus âgés et qui ont fait beaucoup de choses pour l'appellation. Sans eux, des domaines comme moi n'existeraient sûrement pas.
Pensez à qui en particulier ?
Bon, des domaines comme Tempier, Pibarnon principalement, après des domaines comme La Tour du Bon, Bastille Blanche qui font un très beau travail, Terre Brune. On a quand même une appellation où il y a toujours eu des gens qui travaillaient bien, avec une belle image. Des petits domaines comme moi, concrètement, déjà l'appellation serait plus en difficulté sans des gens aussi exigeants. Et des petits domaines comme moi sûrement n'existeraient pas.
Est-ce que vous pensez que la sociologie, je dirais, des domaines, la structure des domaines sur Bandol, n'est-elle pas un frein un petit peu à ces évolutions et ces initiatives comme la vôtre, puis peut-être aux enjeux financiers aussi, un petit peu comme peut-être dans une moindre mesure on peut avoir ces problématiques en Champagne.
Bon, concrètement, si je suis sorti de l'appellation, c'est justement parce que je faisais trop différemment. L'enherbement notamment, on m'a forcé à déclasser certaines parcelles parce que je laissais l'herbe, même si je la maîtrise. Le problème, c'est que certains vignerons jouaient sur le fait qu'on me laissait avec l'herbe pour qu'eux, ils laissent un peu en friche et ils entretiennent moins bien leurs parcelles. J'ai un peu joué le jeu, m'étant occupé de l'appellation, je comprenais leurs problématiques, leurs difficultés. Comme je suis petit, j'ai pu aussi plus facilement sortir de l'appellation et me faire connaître sur mon nom, parce qu'aujourd'hui je fais plus de Bandol
du tout.
Non, je garde un pied dedans en déclarant, même si je les déclasse à la fin, ce qui m'a permis de le faire. Donc malheureusement oui, alors que j'aurais préféré rester dans l'appellation pour apporter justement une autre voix. Quand on fait les choses différemment, noyé dans la masse, les gens comprennent pas. C'est assez compliqué malgré tout, et c'est vrai que le problème des appellations aujourd'hui, c'est plus un éléphant administratif qu'autre chose. Et l'INAO, pour le faire bouger, ben il a plus tendance à régresser, l'INAO, malheureusement, que de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Bon, ben clairement on est sur une autre génération, hein.
Des personnes qui déclassent ou qui refusent de faire des Bandol sur l'aire de Bandol, objectivement c'est rare.
Ben maintenant on en trouve un petit peu plus. On a la première peut-être au même temps que moi sûrement. Bon, moi j'ai commencé avec les blancs et les rosés déclassés. Il y a Agnès Henry avec la cuvée
en sol.
Voilà, donc la cuvée en sol. Maintenant, vous allez avoir Pibarnon avec la cuvée Épidore et Nuance. Donc Épidore en rouge et Nuance en rosé. Bon, après, en dehors de ça, qui ont volontairement déclassé des vins, j'ai pas en tête.
Parce que Bandol fait vendre quand même, objectivement, c'est un nom emblématique. C'est un nom où on achète du Bandol sans trop réfléchir. On sait où on va.
Oui, ça dépend de ce que l'on veut faire comme Bandol. Si on veut faire des Bandol... Alors, Bandol, évidemment, m'a aidé à vendre au début. Mais par contre, ne m'aurait jamais aidé à valoriser un travail différent, parce qu'on m'aurait comparé à d'autres bandoles sans venir chercher la réflexion au niveau du travail qui a été mis en place. C'est comme au tout début, quand j'étais Déméter, je ne marquais pas Déméter sur les étiquettes, parce que je ne voulais pas que l'on me vende chez les cavistes en étant le seul bandole en Déméter, en biodynamie. J'aime bien mettre des boulets au pied, hein. C'est volontaire. J'aime bien me rendre la tâche difficile. Mais parce que je ne veux pas jouer sur les cases, sur les mots, je veux jouer sur la qualité du travail. Et donc, oui, bandole aide au même titre que il bloque. Donc quand on est petit, quand on veut faire des produits singuliers, ben c'est compliqué d'être dans un mastodonte fait de gros volumes où l'ensemble des gens qui vont déguster vos vins ne comprennent pas ce que vous faites et vont juger vos vins alors que c'est pas eux qui les achètent. Le plus important, ce sont mes clients. C'est mes clients qui doivent être contents, pas les autres vignerons. Et comme les autres vignerons, ils feront ce qu'ils veulent. L'important, c'est qu'ils soient là pour valoriser une image, une qualité et qu'ils vendent bien. C'est pas à moi de juger si ce qu'ils font est bien ou pas bien.
Si je vous écoute, quelque part, il n'y a plus de Bandol demain.
Si, alors, je... comment dire ?
Je vous embête avec ma question.
Non, c'est-à-dire qu'il faut rester politiquement correct quand même. Concrètement, moi je serais pour mettre un gros coup de pied dans la fourmilière pour être beaucoup plus exigeant. Le Mourvèdre est central chez nous. Qu'on l'ait à 50%, on le voit même dans les rosés, les bons rosés sont ceux qui ont plus de 60% de Mourvèdre. L'élevage bois est un problème sans être un problème, c'est souvent ce que certains vont soulever. Oui, ça peut être un problème. Le plus gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus trop d'identité chez nous. Il y a un gros défaut d'identité chez les vignerons, où on a voulu faire du rosé parce que c'était le business. Bon, ben, quid du rosé cette année, les mecs sont vraiment dans la merde. Les rouges, on les a complètement oubliés parce qu'on manquait de gens amateurs, hein, comme je disais tout à l'heure.
On les redécouvre pas mal quand même depuis quelques années.
Oui, ça s'y remet. Maintenant, attention à ne pas perdre l'identité des rouges. Pour moi, le Mourvèdre, on doit garder un peu de relief. Il y a plein de régions où on peut faire des vins avec peu de relief. En bouche, hein, je parle, hein, au niveau des tanins. Nous, on a la chance d'avoir un cépage qui a quand même une certaine tenue qui peut permettre d'aller sur des plats où d'autres n'iront pas. Donc, il faut faire attention à ça, garder quand même ce registre-là. Il faudrait évidemment que les domaines porteurs de l'image de l'appellation, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose pour faire évoluer. Parce qu'on a enlevé certains cépages, on en a mis d'autres qui n'ont rien à y faire. Au niveau des techniques du sol, moi j'aimerais qu'on soit une appellation, je l'avais porté, l'idée d'être une appellation bio à 100%. Je ne conçois pas, de toute façon, des herbages chimiques, ce n'est pas possible, désolé. Il faut aussi qu'on évolue dans notre capacité à déguster les vins, c'est-à-dire les vins technologiques. On s'en fout, on est une petite appellation, on est une goutte d'eau à l'échelle du monde du vin. Donc faisons bon, faisons des vins d'identité et soyons en capacité et ayons le plaisir de les mettre en valeur en échangeant entre nous. On est déjà un grand groupe. Moi, chaque année, je fais un salon privé pour les professionnels avec une quinzaine de domaines, dont 8 ou 9 de l'appellation Bandol. C'est un truc que je voulais faire quand je m'occupais de la promotion, que je n'ai pas pu faire. Donc je le fais moi. Voilà. Et c'est avec d'autres vignerons de l'appellation, donc il n'y a même pas de concurrence. On est tous différents. Et c'est ça qui est intéressant. On a le plaisir à goûter nos vins. Et c'est ce qu'on devrait avoir surtout. Des chefs ont plaisir à aller goûter dans les restaurants des copains. C'est ce qui nous fait évoluer. Aujourd'hui, on est dans des vins qui sont trop standardisés de par la demande, alors qu'on devrait être des vins identitaires parce qu'on a la chance d'avoir une climatologie et un terroir unique, très différent, avec un cépage qui est quand même, comme je le disais tout à l'heure, assez facile, même si quand on veut faire bon, il faut un peu
travailler.
Mais on a une capacité à avoir une appellation ultra intéressante.
Et si on allait goûter vos vins qui ne sont plus dans l'appellation ultra intéressante ?
Bah allons s'amuser un peu.
C'est parti ?
Oui.
On est revenu au chaud, on entend la porte d'un poêle avec quelques bûchettes qui crépitent à l'intérieur et nous amène un petit peu de chaleur dans cette journée ensoleillée de janvier, mais de janvier quand même. Et vous en avez profité pour nous servir un rouge.
Un petit, voilà, pour la peine, c'est vraiment le petit canon de rouge. Ça, c'est pour démarrer, c'est ma cuvée de négoce. Donc je fais en achat de raisin, qui est sur la, c'est des vignes qui sont sur la Cadière. Tout simplement, je voulais un vin entrée de gamme, parce que moi, c'est un petit domaine, donc de suite, on est quand même sur des vins haut de gamme, de l'idée est chercher une certaine qualité. Mais je considère qu'il est quand même important de montrer qu'on peut faire des beaux petits vins, accessibles, pas très chers, et surtout le canon d'été, quoi. Moi, je le sers froid l'été, là, bon, à température, c'est les vins faciles, plaisir, je m'éclate à boire des cartons entiers de gamay, bon, dans l'esprit, voilà. Donc là, on est sur une base de Carignan, 85% de Carignan, 15% d'Alicante, 2 semaines de macération, éraflé, et tout est fait en levure indigène, moi, sur le domaine. Donc là, même pour le négoce, j'utilise les levures du domaine avec quasiment pas de sulfite. Et après, moi, comme tous les vins, pas de filtration, pas de collage. C'est vraiment comme à la vigne. L'idée, c'est respecter le produit, la matière. Pardon, j'ai mis un petit peu d'Alicante parce que avant, je l'avais sur le domaine, cette cuvée-là. Le problème du Carignan, c'est qu'en jour racine, des jours froids comme ça, il est réducteur. Déjà, là, il est légèrement réducteur. Donc l'Alicante me permet quand même d'avoir un vin qui soit accessible parce qu'on va pas commencer à regarder le calendrier lunaire pour un vin à 10 balles.
Donc la cuvée s'appelle Pur Jus, c'est ça ?
Ouais. Jusque-là, commercialement, c'était compliqué. J'avais une bouteille bordelaise sur laquelle j'avais marqué clairement que c'était du négoce. Bon, du coup, ça partait pas. Bon, ben là, je suis passé à la bouteille bourguignonne avec une étiquette un peu plus sympa. Après, je suis pas trop pour les vins avec des noms trop funky comme on peut le faire sur la bière. C'est sûr, commercialement, ça aide. Puis bon, des vins à ces prix-là, je pense qu'en plus, dans le marché actuel, là, c'est sûr que ça aide. Ceux-là, c'est des vins, ça peut se retrouver à entre 10 et 12 euros chez les cavistes.
Oui, non, c'est plein, c'est gourmand, c'est croquant, ouais. C'est généreux quand même. Hein.
On reste dans le sud. On reste dans le sud, on voit qu'on est un vin du sud, mais il y a du fruit, il y a la fraîcheur en bouche, mais on voit qu'il y a du soleil quand même. Bon, on va rester dans le sud, hein, j'ai pas pour but de faire du gamay ici. On commence toujours par les rouges ici. C'est volontaire, parce que je le fais à la bourguignonne, bah, pour montrer que les blancs et rosés passent derrière les rouges. C'est pas le cas en Provence, en règle générale, les blancs et rosés sont assez souples. Donc avec les rouges, on les détruit.
Une cuvée for my dad.
Alors, la cuvée For My Dad, c'est tout est... Elle veut tout dire et rien dire. Donc, quand on commence à me connaître, sans que je le dise, on sait ce que ça signifie. Donc déjà, c'est un hommage aux générations du dessus. Je l'ai mis en anglais parce qu'en français, ça faisait kitsch. Et c'était pas forcément que pour mon père. Mais il y a surtout et avant tout autre chose. Là, c'est la cuvée sur laquelle je sors de l'appellation. Je fais les choses différemment. Mon père est sur un domaine un petit peu historique. Et en gros, ce qui m'a fait basculer en 2015, c'est un jour, mon père me dit « Arrête de te faire chier, fais comme tout le monde. » Bah, inutile de dire que c'était pas du tout moi. Du coup,
c'est un clin d'œil, quoi.
Donc c'est un pied de nez. Cette cuvée, c'est plus un pied de nez qu'un clin d'œil, du coup. Enfin, qu'un hommage. Donc, parce que je voulais faire les vins tels que je l'entendais, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec de la singularité, de la personnalité, comme j'aime le vin, et pas juste parce qu'il faut que ça rentre dans les clous pour faire plaisir aux petits copains vignerons.
Il aime votre cuvée ?
Ouais, je sais que maintenant, il apprécie, mais à moi, directement, il le dira jamais. Maintenant, il a pour but de dire que ça ferait mal à pas mal de bandolouis. Les Mourvèdres en plein hiver, pour les rouges, c'est compliqué quand même. On est sur 70% Mourvèdres, 10% de Carignan, et après Grenache, Saint-Saud, autour de 10% chacun, ça va varier d'une année à l'autre. On est sur des terroirs bandol, un assemblage bandol. Moi, depuis 2016, je vinifie tout grappe entière. Et pourquoi sur le rouge j'ai décidé d'en sortir, c'est que pour moi, avec mon élevage, j'avais tendance à assécher les vins fin de bouche. Et j'aimais pas ça. Et pour moi, la meilleure dégustation, elle était fin de vinif. À partir de 2019, j'ai décidé de faire moitié-moitié. Et concrètement, à partier de 2020, c'est tout en formaïda. Donc pas d'élevage bois.
Du tout.
Non. Je suis pas contre, je vais peut-être faire en partie. Par exemple, 2023, j'ai un petit peu en élevage bois. 2022 aussi, un petit peu en élevage bois, un petit peu en amphore, un petit peu en cube. Mais l'idée, c'est m'adapter à chaque millésime. Et comme je vais le faire commercialement, je vais vendre les vins quand je considère qu'ils vont être bons à vendre. Je me fous du millésime. L'idée, c'est que ce soit bon.
Et là, vous êtes vous avez des élevages de combien de temps, du coup, sur ce type de cuvée ?
Là, 2021, il y a eu deux mises. La deuxième mise, elle n'est pas encore faite, elle est en cuve. Et là, on a un an de cuve.
Et inox
Acier, l'inox, c'est pas bon, l'inox. Alors, pour mon pur jus, j'avais trois cuves en inox que j'utilise. Mais l'inox, c'est pas bon, les vins se posent pas dedans, il y a trop d'échanges électromagnétiques. Les vins sont jamais au repos. Alors après, je suis revenu à la grappe entière depuis 2016, parce que pour moi, la rafle est essentielle. Pour moi, c'est un peu comme le tronc de la vigne. C'est la structure du vin, c'est ce qui m'a permis d'aller chercher beaucoup plus en profondeur. Avec le froid, ça rend les tanins un petit peu plus acerbes. Mais par contre, l'idée, c'était voilà, de garder du jus, de la fraîcheur, avoir de la profondeur. Après, vinif, c'est là où je trouvais qu'on avait le plus d'équilibre.
Et un élevage plus long, est-ce que ça aurait pas été profitable au vin pour qu'il se polisse un petit peu plus ?
Alors là, c'est plus de l'ouverture parce que souvent, après 10-20 minutes d'ouverture, bon là, comme je disais, le froid en ce moment sur les Mourvèdres, c'est quand même compliqué.
Oui, ça
se resserre. Ouais, et il aime pas trop l'hiver, le Mourvèdre. Il aime pas les saisons hiver et été. Trop chaud, trop froid, il aime pas. Mais avec l'ouverture, il se polisse énormément. Donc c'est sûr qu'il aurait peut-être fallu un petit peu plus d'élevage, un peu plus le polisser. Donc c'est là où après, moi de toute façon sur les rouges, je me suis pas encore... pour moi c'est jamais bien. Donc sur les rouges, je suis encore loin de ce que je vais arriver à faire.
Ce serait quoi votre objectif ?
Justement avoir des vins qui soient un petit peu plus précis encore. Au niveau de l'aromatique, je m'y tiens par rapport à la maturité, je sais où je vais aller. Maintenant c'est vrai qu'on a des années tellement particulières avec des rendements assez faibles et notamment un rendement jus qui rendent les vinifications beaucoup plus complexes. Bon maintenant avec le recul on sait exactement quoi faire, mais du coup aller avoir plus de moyens pour pouvoir jouer sur les élevages entre amphore, cuve, bois. Donc comme je vous expliquais tout à l'heure, moi je vais revenir beaucoup plus à la barrique qu'au demi-muit. J'ai plus le feeling avec la barrique, le demi-muit j'ai une tendance un peu trop oxydative, c'est mes habitudes du pinot.
Pourtant on a quand même globalement je trouve une tendance dans le monde du vin, aller vers des gros contenants plutôt que des plus petits.
Tout à fait, c'est vraiment ce vers quoi on veut aller. Maintenant, l'idée justement, c'est plutôt de jouer sur la barrique comme je l'entends, et avec de la cuve et de l'amphore, plutôt qu'à acheter un foudre pour. Et c'est là où en fait j'en suis sorti de l'appellation sur les rouges, plutôt que mettre dans des bois qui n'apportent entre guillemets rien, parce que la priorité sur les rouges, c'est les macérations. Une fois qu'on a fait la macération, on n'a rien d'autre à aller chercher. Le temps, certes, le bois va plus être du thym dans lequel on va le faire passer qu'uniquement pour apporter quelque chose. S'il a pour but d'aromatiser ou apporter quelque chose, il va prendre le dessus à un moment ou à un autre. Donc c'est pas forcément le but. Donc l'idée, c'est de trouver un assemblage de contenants qui vont pouvoir convenir, et surtout là où le faire passer du thym pour polisser ces tanins du Morvèdre, qui pour moi sont essentiels aussi. Il faut garder cette âme-là dans les bandoles, de ce relief dont je parle souvent, du tanin du Morvèdre, plutôt que là où certains sont en train de prendre le virage où il faut plus de tanin presque. Il faut des vins gourmands, plaisants, mais on est sur des vins quand même de gastronomie. Il faut garder, je pense, cette granulométrie intéressante. Là, on est sur la cuvée Clos Castel, donc c'est le haut de gamme, donc la parcelle sur laquelle on était tout à l'heure. Clos, parce que parcelle Clos, donc comme souvent, moi je choisis de faire quelque chose sans même savoir si c'est autorisé. Donc j'ai créé Clos Castel sans savoir si ça passait aux douanes. Un jour, ils sont venus me contrôler, m'ont dit non, c'est bon, un clos, à partir du moment où on ne peut pas y pénétrer dessus. J'ai fait ouf. Comme une année où j'avais fait un rosé non millésimé, je ne savais même pas si c'était autorisé, parce que j'avais mélangé 2016 et 2017. Bon, ça, c'est moi, ça. J'ai une idée en tête. Je sais qu'à partir du moment où je ne suis pas là pour fouer le client, je dis que c'est bon. Donc voilà, donc ça, cette cuvée, c'était à la base 100% Morvèdre, donc avec un petit peu de cinceau officiellement. Officiellement.
Donc là, on est sur l'étiquette, en tout cas, il est écrit Bandole.
Il est écrit Bandole.
Bon, il est aussi écrit 2014.
Voilà, donc 2014, à l'époque, j'avais encore que du Bandole. Donc là, c'est première cuvée que j'ai fait quand je me suis installé, donc cuvée Morvèdre grappe entière. C'était vraiment le but, montrer qu'on pouvait faire des grands Morvèdres sur la finesse, plutôt que habituellement les grandes cuvées à Bandole, c'était des vins puissants, extraits, durs. Un petit peu pupute sur le côté gras, très riche et très dense. Aujourd'hui, pour moi, je voulais montrer qu'on pouvait faire des très beaux Morvèdres sur le raffinement, même si, évidemment, on est concentré, on est dans le sud, à la maturité. Bon, là, on a 2 ans d'élevage bois. Là, aujourd'hui, il est quand même très fermé. Normalement, c'est un millésime sur lequel on a même le côté floral. Et là, on est quand même un peu trop fermé sur l'élevage. Par contre, après, moi, ce qui va beaucoup m'intéresser, parce qu'en réalité, c'est des vins qu'il faut beaucoup, sur lesquels il faut pas mal d'ouverture, c'est le toucher de bouche après. Pressurage direct. Il y a quelques années, je me suis acheté un petit pressoir de 8 hectos, cage pneumatique, cage fermée. Donc c'est vrai que c'est parfait. Ça me permet de faire des petites macérations de 1 ou 2 heures des fois. Donc pressurage direct, petit débourbage. On lance la fermentation. Enfin, j'apporte les levures indigènes. Donc c'est un pied de cuve qu'on va travailler. On fait un gros travail de recherche là-dessus. Et après, je la balance dans le foudre. Donc un foudre ovale de 10 hectos dédié au blanc. Donc 1 an d'élevage mis en bouteille juste avant les vendanges.
Et c'est avec cette cuvée que vous êtes sorti de l'appellation ?
Voilà, exactement. C'est la première couleur sur laquelle j'ai créé la cuvée Formidad et je suis sorti de l'AOP.
Pourquoi elle pouvait pas rentrer dans l'AOP celle-là ?
La dégustation, uniquement. Parce qu'après, on peut faire du bois et tout, mais le truc, c'est que moi, je mets pas de sulfite dans les vins. En vinif et en élevage, très peu. Donc les vins, ils sont pris au mois de février. Donc là, en gros, maintenant, on est au mois de janvier. Le problème, c'est quand il fait froid, l'oxygène dissous dans les vins, il est énorme. Donc les vins ont une tendance oxydative. Deuxièmement, on est sur de l'élevage, quand le vin est assez fermé. Donc ça veut dire que le bois peut prendre le dessus face au vin. Et en plus, avec un côté oxydatif, quand les vins, ils bougent pendant 2 jours dans la voiture de prélèvement. Donc à la dégustation, ils passaient pas forcément. Là où on veut des vins techniques, aromatiques, agrumes et tout ce qu'on veut. Et après, je sais pas si la première année, je crois que j'avais représenté derrière, c'était encore pas passé parce qu'on est sur l'élevage, on est sur des vins plus denses aussi que ce qui peut se faire aujourd'hui sur les vins clairs. Et après, mon ego a pris le dessus. Après, au bout d'un moment, j'ai dit merde. L'élevage bois sur le blanc et rosé, pour moi, il est essentiel aussi pour ça, pour ce travail-là de structure sur les vins. Mais c'est vrai que là, pour moi, la mer, c'est vrai que vous le soulevez, c'est un point fondamental, moi, dans le travail sur les vins. Aller chercher une petite touche d'amère qui permet de tenir les vins sur la profondeur et aussi pour les accords mets et vins. L'amère, c'est quelque chose qu'on a dénigré au profit du sucre, alors que l'amère est essentielle.
Bah, et le rosé, Julien, dans tout ça ?
Après.
Ah, je pensais que vous en faisiez pas pour votre côté trublion, aller jusqu'au bout et ne pas faire du tout de rosé.
Alors, dans l'esprit où chaque millésime, je vais chercher le meilleur, si on prend 2021, par rapport au calendrier lunaire, je savais qu'on allait avoir un grand millésime à rouge, donc j'ai fait 80% de rouge. Et par exemple, 2020, je crois que je fais 40% de rosé. Donc l'idée, c'est aller chercher le meilleur de chaque millésime. Ben là, on est sur un rosé, donc 75% Morvèdre, grenage, cinceau, pressurage direct, pareil, et fermentation et élevage en foudre, en fort et demi-muit, et 2 ans d'élevage. Ça a été mis en bouteille, il y a 1 an.
Vous considérez comme un électron libre ?
Ouais, je sais même pas comment je me considère, moi, tout seul. Donc, un électron libre, oui, ou en tout cas, je ne m'interdirai rien, on ne m'imposera rien. Donc, oui, on peut dire électron libre, il y en a qui me disent c'est un anarchique. Alors, vous savez, quand on prend la définition brute de l'anarchique, oui, en effet. Dans la manière dont on voit ce mot-là dans le monde, pas forcément, parce que je suis quand même assez cadré, je suis citoyen où j'essaye de faire le nécessaire à mon échelle, donc pas le but de tout renverser. On a besoin d'identité. Individuellement, ce monde a broyé les identités. Les AOP en font partie, du coup, dans le monde du vin. Pour moi, l'identité est essentielle, le plaisir est essentiel. Donc oui, à mon échelle, dans un monde tel qu'on le connaît, on peut dire que je suis un électron libre, oui.
Comment vous voyez l'avenir de votre domaine ? Vous nous le précisiez tout à l'heure en introduction, votre projet, vous le voyez même sur plusieurs générations ?
Clairement, en tout cas, c'est donner les moyens aux générations de demain. Là où ça ne serait pas le cas aujourd'hui, demain, on va dire que si j'arrête, le domaine, il est mort. Si ce n'est pas la famille qui travaille, c'est mort. Donc l'idée, c'est créer une propriété, pas que le domaine viticole d'ailleurs, incluant le maraîchage, l'arboriculture, le concept d'une auberge qui est en train de se créer, des chambres. Donc un concept global où la propriété puisse rester dans la famille, même si la descendance ne travaille pas sur place. Que ça puisse être autonome et que ça puisse rester dans la famille pour que, ou ben, peut-être que ma fille, jusqu'à 35 ans, voudra venir bosser, ou jamais. Mais peut-être que si elle a un enfant, oui, ou peut-être un cousin ou quoi, voilà. Il faut que le domaine puisse être autonome et viable pour que ça reste dans la famille. Et c'est le gros problème de l'agriculture. D'ailleurs, beaucoup de domaines, tout le monde voit passer, des domaines qui ont été vendus, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que aucun membre du capital des familles se verse de dividendes parce que pas la capacité en trésorerie de le faire. À partir du moment où un domaine, ou une propriété, une entreprise ne se verse pas de dividendes, elle peut pas transmettre. Parce que c'est les dividendes qui doivent, entre guillemets, permettre de payer les droits de succession ou payer le rachat de parts sociales chez quelqu'un d'autre. C'est pour ça que même le vin en agriculture n'est pas rentable.
Sur le long terme, en tout cas.
Sur le long terme, sur le court terme, hormis domaine ultra connu qui est capable de survaloriser, comme on peut le voir à certains endroits, mais qui fait qu'aussi on augmente le niveau de capital des domaines qui rend toujours plus compliqué de transmettre. L'idée, c'est d'être diversifié et d'être capable de produire avec un minimum de dépenses. Parce que la dépense, c'est de l'endettement, donc c'est la banque qui gagne, c'est les fournisseurs de matériel, de produits qui gagnent. Moi, l'objectif, je préfère produire moins, bon, bien vendu, mais surtout que des années compliquées comme on a pu les connaître, que ça ne me coûte pas cher si on perd de la récolte. Le problème, c'est quelqu'un qui produit de manière en bio, standard, je dirais, travail du sol important, beaucoup de mécanisation, cuivre, soufre, tout ça coûte beaucoup d'argent, beaucoup de travail manuel, tout ça coûte beaucoup d'argent. Demain, vous perdez de la récolte pour une raison ou pour une autre, ben, vous avez dépensé l'argent quand même. C'est pour ça que dans le projet économique, il y a le désendettement, on fait partie. Oui, aujourd'hui, je sais que je suis bien moins endetté que ce qui peut se trouver ailleurs.
Eh bien, on va vous remercier, Julien, du temps que vous nous avez gentiment accordé.
Mais avec plaisir.
Et on va terminer gentiment la dégustation de ce rosé.
Oui.
Micro coupé.
Julien Castel, domaine Castel-Rénoir, le trublion des terroirs de Bandol. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Nolwenn Moquet. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.